In 500 meters, go straight, and then go straight.
Entre les pages. Dans le monde des livres en Anjou, mais aussi dans le monde des livres partout ailleurs, il est un maillon qu'il faut prendre en garde de ne pas oublier, celui des décideurs. Et pour ce qui nous concerne aujourd'hui, le décideur, à tout le moins celui qui dispose d'une réelle capacité d'agir, n'est autre que M. Nicolas Dufetel, adjoint à la culture de la ville d'Angers. Disposer d'une capacité d'agir, c'est sans doute savoir appréhender le quotidien, veiller à l'harmonie du fonctionnement et à la qualité des services publics, mais c'est surtout, il me semble, savoir se projeter vers l'avenir. Dans une délégation aussi vaste que celle de M. Dufetel, il y a la lecture publique. S'assurer que le livre, mais aussi les autres supports, soient au plus proche des habitants, en quantité et en qualité. Et il y a un projet fantastique, la réhabilitation de la bibliothèque Toussaint. Une bibliothèque, un bien si précieux. Il y a moins de 10 ans, au Mali, les islamistes tentaient de détruire les livres, pour certains très anciens, de la bibliothèque de Tombouctou. Une poignée de responsables a pris son courage à deux mains et a quand même réussi à protéger près de 80% des manuscrits en les transportant dans des cantines en fer vers le sud du pays. Sachons donc apprécier la chance que nous avons, mais est-ce réellement une chance dans un pays comme la France, riche, développé, disposant d'institutions républicaines régulièrement élues? Que le livre et la culture, dans sa totalité, soient des biens considérés comme essentiels, participant à l'émancipation de la population, et que des moyens soient consacrés à leur accessibilité et à leur diffusion. De tout cela, nous allons parler avec un très jeune élu, mais dans un premier temps, nous allons tenter de mieux savoir qui est M. Nicolas Dufetel. Bonjour Nicolas Dufetel.
Bonjour Luc Douin.
En présentant la conversation que nous allons avoir, j'ai dit que vous étiez un très jeune élu. Votre engagement dans la vie politique date de quand ?
Il est très récent, puisqu'il remonte aux élections du printemps 2020. Je dis le printemps parce que c'était une période, vous vous en souvenez, particulière en termes de calendrier, élection au mois de mars, mais prise de fonction au mois de mai. Donc voilà, ça fait un an et demi maintenant que je suis en responsabilité publique.
J'aimerais au cours de cet échange que nous vous connaissions un peu mieux. Remontons donc dans le temps. Vous êtes né où ?
Je suis né à Angers.
L'école ?
Raspail, André Moine.
Et c'est quel souvenir pour vous ?
Alors, l'école Raspail pour la maternelle et puis André Moine pour l'école primaire. C'est beaucoup de souvenirs, André Moine notamment, parce que j'étais dans cette école en 89, lorsqu'on a fêté le bicentenaire de la Révolution française, et c'est quelque chose qui m'a marqué, hein. Je me souviens avoir confectionné des bonnets phrygiens, enfin voilà, avoir participé à des pièces de théâtre enfant pour la commémoration de cet élément marquant de l'histoire de France, marquant de la République, fondamental, pas seulement marquant d'ailleurs. Puis André Moine, c'était aussi, je dis c'était parce que maintenant ça n'est plus une école, c'est devenu un lieu de culture, c'est devenu l'archipel, c'est devenu des studios du CNDC. Donc je vois avec une grande émotion que l'école dans laquelle j'ai passé quelques années est devenue un lieu que je fréquente dans ma vie publique aujourd'hui. Et puis André Moine, c'était aussi une école particulière parce que c'était une école, alors je ne sais pas comment on disait à l'époque, je dirais inclusive aujourd'hui, puisqu'elle elle accueillait des enfants, des élèves mixtes avec des enfants handicapés. Et donc j'ai eu la chance de grandir au contact d'une grande diversité avec des camarades qui étaient porteurs de handicap très différents les uns les autres, et je pense que très clairement ça a marqué ma vie d'adulte jusqu'à aujourd'hui.
C'est très étrange cette anecdote par rapport au bicentenaire de la Révolution, parce que j'ai reçu il n'y a pas plus d'un mois un auteur qui s'appelle Thierry Froger, qui a écrit un livre, et pourtant ils existent, sur les anarchistes, mais surtout il racontait ses souvenirs d'enfance où il se voyait défiler pendant le bicentenaire de la Révolution en 89, costumé en sans culotte.
Écoutez, moi c'est vraiment, je suis rentré en 89, j'avais 7 ans, donc je pense que j'étais en CP, je crois que c'est à peu près cet âge-là, ou un petit peu, je ne sais plus exactement.
Oh, oui,
en tout
6
cas,
ans.
Je me souviens de ces pièces de théâtre, et puis de la Déclaration des droits de l'homme. Je me souviens qu'on l'avait travaillé, je me souviens que je l'ai toujours, celle qu'on m'avait remise, et je pense que c'est quelque chose, oui, que l'école de la République, que l'école publique m'ont apporté pour le bon de ma vie aujourd'hui.
Donc ça, c'était il y a longtemps. Et puis, vous vous engagez dans des études de musicologie.
Voilà.
Vous n'avez pas choisi la pratique instrumentale, pourquoi ?
Alors en fait, après André Moine, j'ai fréquenté le collège Californie, et puis ensuite je suis allé au lycée à Joachim du Bellay. Pourquoi ? Parce que je souhaitais faire de l'histoire de la musique, j'étais parallèlement élève au conservatoire, j'ai commencé la musique tard, j'ai commencé la musique à 13-14 ans, je suis rentré au conservatoire à 16 ans, et puis donc voilà, j'avais ces différentes appétences pour la pratique du piano. J'étais élève d'Hélène Desmoulins, pianiste et professeur bien connu sur notre ville, que je fréquente toujours, et je vais vous faire la petite confidence, qui ne sera plus une confidence, c'est que eh bien, je prends encore quelques cours, et j'ai décidé de continuer à le faire de façon plus importante. Mais j'avais une passion, et j'ai toujours une passion pour l'histoire de l'art, pour l'histoire de la musique, pour la philosophie, et donc au sortir du bac et des études de conservatoire, je me suis orienté vers une licence d'histoire et une licence de musicologie. Donc j'ai quitté Angers, puisque à l'époque il n'y avait pas de formation en histoire de la musique, en musicologie. Je suis allé à Tours, j'ai découvert une ville qui est devenue mon alma mater, hein, en termes universitaires, avec une grande tradition d'humanisme. Je veux dire, Tours, c'est l'université François Rabelais, c'est un département d'histoire de l'art, d'archéologie, de philosophie, d'histoire, et j'ai rencontré des maîtres à penser, des enseignants, des professeurs qui m'ont vraiment marqué.
Vous nous dites, vous nous brossez un peu le tableau, donc c'est plutôt une passion pour l'histoire et puis la musique qui vous ont conduit à faire ces études-là. Vous parlez de piano. On imagine bien que c'est des cours de piano classique que vous avez suivis. Vous êtes né au début des années 80. Dans votre adolescence, on écoutait Nirvana, Metallica ou U2. Vous écoutiez quoi ?
Alors, mon premier souvenir de disque offert, c'est ma sœur. Et c'était Jean-Jacques Goldman qui m'avait offert un CD. Et un autre CD, deuxième, Les Innocents. Donc vous voyez, ça me ramène dans les années 90.
Oui, oui.
Ça, c'est mes souvenirs de premier CD, ce qu'on m'a offert. Et je me souviens aussi, dans les années 90, mon père avait un CD dirigé par Karajan de Finlandia, voilà, de Sibelius. Et j'ai écouté en boucle ce poème symphonique que j'ai usé. D'ailleurs, je viens de le retrouver, il est complètement inaudible.
Il est presque transparent.
Ouais, il est presque transparent comme les CD des années 80 pour beaucoup. Et puis, j'ai découvert la musique de Franz Liszt, d'abord pour le piano, quoi. Des œuvres très connues qui étaient des tubes, la deuxième rhapsodie hongroise, Le rêve d'amour. Ensuite, j'ai découvert que chez Liszt, il y avait des œuvres beaucoup moins connues, qu'il y avait aussi des œuvres pour orchestre, et puis de la musique religieuse. Et je me suis rendu compte que ce que l'on écoutait de ce musicien incroyable, qui a été écrivain, philosophe, que Baudelaire a adoré au XIXe siècle, qui a fait de la diplomatie, qui a voyagé partout, ben on ne connaissait de cette rockstar de son époque, parce que c'était vraiment ça, hein. Ken Russell en 75 a fait un film génial sur lui, Listomania. Enfin, faut mesurer l'impact dans l'histoire culturelle de ce compositeur qui est tourné vers les autres et pas tourné vers lui. Donc déjà, c'est un gage d'ouverture. Pour connaître Liszt, il faut être curieux des autres. Voilà, il nous invite à cela. Et ben en fait, c'était tout simplement la face émergée de l'iceberg, et j'ai voulu creuser ça, et je crois qu'à 16 ou 17 ans, je me suis dit que je ferais une thèse sur la musique religieuse de Franz Liszt, parce que personne ne connaît ça.
Et c'est ce que vous avez fait.
Et c'est ce que j'ai fait.
Ouais. Vous êtes devenu un spécialiste, hein, de cette musique. Enfin, j'ai même écrit sur mon conducteur, un spécialiste de renommée internationale. Vous êtes même allé jusqu'à participer à un séminaire à la Juilliard School à New York.
Oui, tout à fait. J'ai eu la chance d'être invité pour donner une série de de conférences de séminaires à Columbia et à Juilliard, et j'ai eu l'immense honneur et la chance, d'ailleurs grâce au Rotary Club d'Angers il y a un moment, d'être envoyé comme boursier à Yale, et ensuite j'ai eu la chance d'être invité pour faire un stage postdoctoral à Harvard. Donc vraiment ça m'a apporté tout le bien qu'il peut y avoir dans le système universitaire américain.
Oui, et vous y avez fait des recherches?
Oui.
Et expliquez-nous un peu ces recherches.
Très, très bien renseigné.
Ah ben,
écoutez, d'ailleurs, c'est un sujet littéraire qui m'a envoyé aux États-Unis pour la première fois, puisqu'il y a dans les collections de la Binocle Library, une superbe bibliothèque américaine à l'université de Yale, un manuscrit inédit, qui était un manuscrit de Liszt sur les opéras de Wagner, qui n'avait jamais été édité. Baudelaire avait eu une connaissance partielle de ce document et il en faisait la louange. Et il m'a pris l'idée d'aller étudier ce manuscrit, de reconstituer le livre dont on avait seulement des parties de Liszt et que j'ai publié chez Actes Sud en 2013. Puis ensuite, je suis retourné aux États-Unis, une invitation pour parler d'un sujet aussi sur le 19e siècle, alors que le premier était ouvert sur la littérature, sur l'Allemagne, sur les œuvres d'art de Richard Wagner, qui étaient des œuvres d'art totales, parce que le 19e siècle, c'est postulé que les arts correspondent, c'est Baudelaire, c'est les synesthésies. Mais j'ai un autre dada académique, si on peut dire ça comme ça, c'est la musique dans l'Empire ottoman. Donc c'est l'inverse
de
l'orientalisme.
Là, on va bien ailleurs. Là,
dans la même période et dans cette volonté d'ouverture, c'est-à-dire la façon dont les orientaux, ou en tout cas les provinces de l'Empire ottoman, l'Égypte, la Palestine, la Turquie actuelle, ont pratiqué, se sont intéressés à la culture, à la musique, à la peinture, à la littérature occidentale. C'est vraiment le miroir, un peu comme dans Alice au Pays des Merveilles, de l'orientalisme, dans une perspective qui suit les études saïdiennes, véritablement, de réflexion postcoloniale aussi, hein, sur ce rapport culturel, que j'aime beaucoup voir en fait comme un partage dans l'ère méditerranéenne. Je suis assez convaincu que notre Europe, et je suis convaincu que l'Europe n'a pas à être construite dans le domaine culturel. Quand on parle de construction européenne, c'est l'économie, c'est la défense, on le voit aujourd'hui avec les questions sanitaires, mais l'Europe de la culture, elle existe depuis des siècles, et elle n'a pas besoin d'être construite, elle a besoin d'être entretenue et révélée. Et il y a, dans cette ère culturelle aussi, des échanges avec tout le pourtour méditerranéen, ces brodels, et ça, je suis assez convaincu de cela.
Tout ça, ça ne vous suffit pas. Et vous êtes aussi un passeur, puisque vous êtes le directeur des Mardis musicaux au Grand Théâtre à Angers.
Alors ça, c'est fini, justement.
Ah, alors, dites-nous. Alors, finalement, vous voyez que je ne suis pas si bien informé que ça.
Justement, vous n'êtes pas exactement à jour, mais vous l'êtes sur beaucoup d'autres sujets, Luc. En fait, j'étais président pendant un an et demi de la Société des concerts populaires des Mardis musicaux, mais mon élection a fait que j'ai décidé de ne plus être impliqué dans cette association et même de ne plus y exercer de responsabilité, parce que je considère que je ne peux pas être juge et partie, et puis arrêter certaines choses. J'ai été beaucoup engagé dans le milieu associatif. Je continue à enseigner un petit peu, mais j'ai réduit le nombre de cours que je donnais pour pouvoir dégager du temps, tout simplement, pour mon mandat.
Mais malgré tout, ces Mardis musicaux, expliquez-nous-en le principe, enfin, la philosophie et le principe.
Historiquement, les Mardis musicaux, c'est la Société des concerts populaires qui a été fondée en 1877. Donc, si vous faites bien le calcul, elle a 143 ans. Ouais. On avait fêté les 140 ans il y a 4 ans. C'est la plus ancienne société de concert populaire encore active en France. La grande époque du concert populaire, c'est les années 1860. Il y a des concerts à Paris, partout dans toute la France, mais souvent les associations se sont arrêtées. Ben, Angers, ça a continué. Il faut se remettre dans la perspective qu'au 19e siècle, l'idée, c'est de démocratiser, c'est d'amener la musique pour tout le monde. C'est les Orphéons, c'est un vaste mouvement populaire qui accompagne le mouvement ouvrier également, d'engagement, pour que finalement tout le monde puisse bénéficier de cette musique. Et ce qui est hyper intéressant quand on regarde la géographie de notre ville, c'est de se rendre compte que les premiers concerts populaires d'Angers, ils ont été organisés dans un faubourg, c'est-à-dire dans une salle éloignée, qui était grande, qui pouvait accueillir du monde, qui n'était pas chère à l'époque. Et cette salle, c'est tout simplement les Greniers Saint-Jean. C'est-à-dire les Greniers Saint-Jean, qui sont maintenant une salle centrale, étaient dans les années 1870 un lieu où ont eu lieu des premières expérimentations. C'est presque comme si aujourd'hui une association se développait dans les quartiers, finalement, en périphérie de cette ville qui grandit, hein, c'est un organisme vivant, une ville qui grandit. Ensuite, les concerts ont eu lieu au Cirque Théâtre, qui s'est trouvé place Molière entre 1875 environ et 1960. Voilà, certains Angevins s'en souviennent peut-être, mais d'avoir vu cette salle extraordinaire, détruite malheureusement, dans laquelle ont eu lieu des concerts absolument incroyables. Et sont venus à Angers des gens comme Chabrier, comme Saint-Saëns, comme Vincent d'Indy, dont les partitions sont conservées.
Et ça continue malgré tout aujourd'hui, même si vous n'en avez plus la responsabilité, on se rend compte que la qualité de la programmation de ces mardis musicaux est quand même de très étonnante.
Et je vous remercie de permettre que j'en parle un petit peu, parce qu'il y a de très grands artistes qui viennent de façon régulière donc, au Grand Théâtre, 6 dates régulièrement. Ce sont en effet les meilleurs musiciens qui viennent proposer aux Angevins et aux Angevines de venir les écouter. Et puis Lionel Descamps, qui m'avait précédé, avait lancé aussi un ensemble de musique, on va dire modulable, dédié à la musique contemporaine, qui s'appelle Minium 21. Ils sont par exemple aujourd'hui en train de monter et de diffuser un spectacle autour de Babar et de la musique de Poulenc. Donc ce sont des musiciens qui vont vers de nouveaux publics, qui défendent la musique contemporaine, mais aussi vers les publics des enfants.
Eh bien, avant de passer au deuxième volet de cette émission, moi je vous propose une pause musicale. D'écouter l'ensemble Amaryllis. Il a interprété le larghetto de la sonate numéro 4 de Francesco Mancini. À la flûte, il y avait Héloïse Gaillard. Vous écoutez Entre les pages, l'émission qui parle du monde des livres en Anjou, et ce n'est que sur Radio G, sur le 101.5. Aujourd'hui, je rencontre Nicolas Dufetel, adjoint à la culture de la ville d'Angers, et nous parlons du projet de réhabilitation de la bibliothèque Médiathèque Toussaint. 2019, c'est le grand bouleversement pour vous. Christophe Béchu vous propose de rejoindre son équipe. Qu'est-ce qu'on ressent devant une telle sollicitation ?
Alors d'abord de la surprise, parce que ça n'est pas du tout quelque chose que j'avais envisagé de faire dans ma carrière. Donc de la surprise d'abord, évidemment de l'honneur, enfin je veux dire, on est aussi après la surprise ou en même temps que la surprise honorée que quelqu'un puisse vous proposer ça. Du doute aussi, est-ce que je peux le faire ? Est-ce que je saurais le faire ? Est-ce que je serai à la hauteur ? Donc voilà, ce mélange de surprise, d'être honoré et puis d'être dans le doute, fait qu'on finit par accepter pour saisir en fait la chance de servir. Voilà, je suis fonctionnaire de mon état, donc j'ai une certaine conviction dans le service public. Je considère que l'intérêt général n'étant pas la somme des intérêts particuliers, il faut un travail pour le faire. Je considère aussi que beaucoup devraient, en fait, à un moment de nos vies, un peu sur le modèle de la démocratie grecque, hein, exercer des responsabilités publiques. Et donc on arrive à se dire, bah, finalement, c'est peut-être le bon moment pour moi. Et puis surtout, un candidat qui, à l'époque, vous dit qu'il veut faire de la culture une priorité. Et ça a été l'élément déclencheur. J'en ai parlé un petit peu autour de moi. Et c'est vrai que cette idée de partir dans cette mission avec un maire qui propose que la culture soit une priorité, ça a été l'élément décisif. Et de travailler avec lui, avec toute l'équipe, avec tous les services aujourd'hui, pour que cette priorité eh bien, fasse corps, en effet.
Votre premier mandat, vous n'avez pas 40 ans. Ce qui en soi n'est ni handicap, ni une qualité, ni quoi que ce soit. Vous n'avez pas 40 ans, c'est tout. Hein,
ça arrive à tout le monde.
Voilà, c'est arrivé, ça m'est arrivé. Il vous propose la fonction d'adjoint à la culture. Tout d'un coup, il n'y a plus que la musique, mais plein d'autres domaines à prendre en charge. Et ça doit être une découverte pour vous d'avoir un spectre aussi large.
Ma pratique de la musique et ma vision de la musique, elle est pas tournée vers elle-même. C'est-à-dire que, étant 19e-iste, travaillant sur des compositeurs qui ont aussi été écrivains, qui considèrent qu'il existe une œuvre d'art totale, je veux dire, on parle du 19e siècle, c'est l'époque de Baudelaire, c'est l'époque de Wagner, c'est l'époque du symbolisme, c'est l'époque de cette quête absolue que l'art, en fait, est un vecteur des émotions et qu'au milieu de tout est la poésie d'une certaine façon et qu'on l'exprime différemment. J'avais fait des études d'histoire et mon approche est une approche à la fois d'historien. Ce qui est drôle, c'est que je suis qualifié, j'étais qualifié au CNU, pour ceux à qui ça parle, donc à l'université, en section 18, histoire de l'art, et en section 22, la section histoire tout court. Et quand je suis rentré au CNRS, quand j'ai fait le concours du CNRS, la musicologie n'existe pas en tant que telle, elle appartient à la section de philosophie et d'épistémologie. Donc j'ai dû travailler les questions de philosophie, d'épistémologie, qui me nourrissent profondément. Enfin, donc je suis arrivé en tant en effet que musicologue, mais une musicologie qui avait déjà pratiqué et qui pratique au quotidien les questions de philosophie, de littérature et d'histoire. Donc concrètement, en fait, je me suis pas senti perdu du tout. Mes goûts, j'ai pas attendu d'être élu pour fréquenter les musées, pour fréquenter les bibliothèques, pour fréquenter les salles de spectacle, de théâtre notamment. Maintenant, j'y vais un petit peu différemment. Oui. La grande richesse, c'est d'être beaucoup plus au contact direct avec les centaines de personnes sur une ville comme Angers qui animent tout ça. La vraie différence pour moi, c'est que ma curiosité, elle était partout, mais mon contact était principalement avec les gens de la musique. Maintenant, j'ai la chance de rencontrer les acteurs sur Angers, associatifs, administratifs, qui font la réalité de tout ça. Et je m'en réjouis. Enfin, c'est vraiment un enrichissement. Et je suis là pour les soutenir. Tout simplement, je souhaite être leur adjoint, de même que je suis l'adjoint des Angevins, des Angevines. Mais je souhaite être aussi l'adjoint des artistes et de tous ceux qui font vivre la culture.
Quand je dis que le spectre devient plus large, on va dire c'est en termes de superficie et en termes d'épaisseur. Parce qu'à un moment donné, il n'y a plus seulement et uniquement le plaisir de la culture, il y a aussi la trivialité de la culture, les budgets, les problématiques X et Y qui se posent au quotidien et pour lesquelles vous devez être sollicité en permanence.
Je vais vous faire une autre confession. Ce matin, je visitais un site où il faut qu'on change la plaque électrique parce que la plaque électrique qui est mise, elle fait sauter l'électricité. Donc voilà, c'est ça la réalité aussi d'un adjoint à la culture. Mais je ne suis pas seul pour faire tout ça. J'ai la chance d'être accompagné. La culture à Angers, c'est 400 agents publics. Les enseignants du conservatoire, le personnel des bibliothèques, et on va en reparler parce que c'est le cœur de notre émission aujourd'hui. Je rappelle que c'est le premier service public de proximité, hein, les bibliothèques. Ce sont les agents des musées. C'est un service central avec un directeur de la culture. Au niveau politique, j'ai la chance aussi de ne pas être seul puisque je suis accompagné de Christine Blin qui a une délégation spécialement sur les bibliothèques, c'est-à-dire notre intérêt et notre soutien à ce sujet, et de Vincent Février qui, lui, travaille sur les questions, et va travailler de plus en plus sur les questions d'enseignement artistique et culturel, parce qu'on veut augmenter notre soutien en mettant en place des contrats locaux d'éducation artistique et culturelle. Donc je ne suis pas seul, et heureusement.
Alors on découvre aujourd'hui que même un 19e-iste peut être capable de se préoccuper de plaques électriques qui sautent. Le projet de réhabilitation de la bibliothèque Toussaint était le premier point du programme de Christophe Béchu au municipal en 2020. C'est donc quelque chose de fort. Enfin, vous êtes presque, c'est votre mission première.
Oui. Il y a trois grands chantiers qui vont être lancés dans le mandat. Alors, le mandat culturel, c'est plein de choses hein, que l'on ne voit pas. C'est une restructuration, c'est augmenter des enveloppes, c'est créer des enveloppes, c'est accompagner l'émergence de nouvelles personnes, c'est essayer de créer des emplois. Donc, c'est toutes ces petites choses. Mais il y a trois gros projets, gros équipements qui impliquent tout simplement des millions hein, d'argent public d'investissement, mais qui étaient des nécessités. Je vais finir par la bibliothèque. C'est d'abord la création d'une nouvelle salle de musique actuelle, un nouveau Shabada, parce que la salle est trop petite. Je rappelle que le Shabada actuel, c'est des anciens abattoirs. Ça n'a jamais été créé. Et je pense que les musiciens d'Angers et le public ont le droit d'avoir une vraie salle de concert.
Oui,
ce qu'on va construire.
Pour la petite histoire, j'ai fréquenté très longuement une salle à Calais qui s'appelle le Chanel et qui a été réalisée dans les abattoirs.
Tout à fait.
De Calais.
Mais nous, on pense aujourd'hui que cette salle de musique actuelle, elle doit trouver sa place dans un nouveau quartier qui se développe au niveau de Saint-Serge, de la patinoire, etc. Et ça fait sens et c'est un engagement très très fort. On va aussi lancer la restructuration du Muséum d'Histoire Naturelle, le rendre accessible, parce qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas y accéder si vous avez une poussette ou si vous êtes en fauteuil. Donc, il n'est pas du tout accessible aux personnes à mobilité réduite. L'agrandir, le moderniser en lui gardant son charme désuet. Mais c'est un chantier tellement vaste, avec les centaines de milliers de pièces qui sont conservées dans les collections, que voilà, c'est pas aussi facile, j'ai presque envie de dire, que de construire une nouvelle salle ex nihilo. Et le troisième grand chantier structurant, donc vous avez vu, on a approche muséale, culture scientifique, musique actuelle, avec un lieu qui vivra aussi avec des studios pour les musiciens. Enfin, moi, je rêve que cet endroit soit notre nouveau phare culturel, hein, après le quai, comme ça, le long de la Maine. Et puis, la médiathèque Toussaint. Un constat de base de la part de Christophe Béchu, c'est qu'il avait restructuré les équipements sportifs qui avaient vieilli au mandat précédent, et donc là, il s'agissait de faire la même chose avec les équipements culturels. En l'occurrence, Toussaint vieillissait. Ceux qui fréquentent le papier peint, enfin tout ça, partir en lambeaux. C'est un équipement qui a 40 ans. Donc déjà, matériellement, il faut absolument le restaurer. Une restauration qui va être aussi un agrandissement, on va y revenir, mais je voudrais juste rappeler un fait essentiel, c'est que la bibliothèque Toussaint, c'est une bibliothèque de quartier. La bibliothèque Toussaint est peut-être la bibliothèque du centre-ville, mais je considère que chacune des 9 bibliothèques de notre réseau et son propre centre, et que chacune des bibliothèques de ces quartiers soit ont été rénovées, soit sont en cours de l'être. Et par exemple, vous savez que d'ici quelques mois, d'ici la fin du mandat en tout cas, nous allons ouvrir une nouvelle bibliothèque à mon plaisir dans le cadre du grand renouvellement urbain de ce quartier. Et la cerise sur le gâteau, et ce gâteau c'est ce réseau, c'est en effet Toussaint. Mais c'est aussi un symbole de dire attention à Angers, la lecture publique, c'est un réseau de bibliothèques. Et que Toussaint est le premier équipement en termes de nombre de documents, en termes de superficie, en termes
de fréquentation
tout simplement. Mais elle s'intègre dans un réseau.
Elle s'intègre dans un réseau et elle s'intègre dans une géographie. et pas n'importe quelle géographie.
Je vous remercie.
On est à proximité de la salle du musée. Mmh. Enfin, il y a le jardin qui est mitoyen. Mmh. Enfin, c'est donc presque un complexe parce que avec la galerie de sculpture, le musée qui est derrière, on peut parler de centre culturel. Enfin,
vous avez complètement raison. Alors, pour moi, c'est une sorte d'agora, de forum public. Parce que ce jardin des Beaux-Arts qui est magnifique, il est entouré uniquement de, je parlais de façon triviale, de foncier public et de foncier public culturel. Mmh. C'est-à-dire que, en effet, vous rentrez dans ce jardin, tout de suite à droite, vous rentrez par le boulevard, vous avez maintenant le repère urbain qui intègre l'Artothèque, le service Angers Patrimoine, donc un lieu dédié à la création contemporaine en art plastique, et puis au patrimoine, voilà, avec une structure, et c'est un endroit dont la visite est gratuite. Il y a une superbe carte de la ville, une maquette, vous pouvez y aller, c'est magnifique. Vous avez le musée des Beaux-Arts, sur la terrasse duquel trône naturellement la statue de Niki de Saint-Fabre. Vous avez la magnifique galerie David d'Angers. Oui. Je rappelle que maintenant tous les musées d'Angers sont gratuits la dernière heure. C'est une invitation à la gourmandise. Vous savez, c'est l'heure tranquille où les angevins vont voir une œuvre, une salle, une invitation à revenir avec des amis, avec en amoureux, en famille. Et puis vous avez la médiathèque Toussaint qui clôt comme ça ce carré de la culture extraordinaire à Angers.
Dans la galerie David d'Angers, où on peut admirer une statue de Jean Bar qui trône au milieu de la place Jean Bar à Dunkerque, que je connais bien.
Et Gutenberg à Strasbourg.
Et quand j'ai visité la galerie David d'Angers, que je me suis trouvé au pied de la statue de Jean Bar, comme je venais de Dunkerque, je me suis dit, mais il y a un choc qui se produit. Là, je vois Jean Bar alors que je l'ai laissé à 600 km de là.
Oui, c'est un lieu génial.
Ce projet donc de réhabilitation, alors comment on dit ? Réhabilitation, modernisation, réfection ?
Alors, c'est une réhabilitation. Si on parlait de restauration, ça n'implique pas l'agrandissement. Or, il y aura agrandissement. Le terme de réhabilitation permet de dire qu'on met aux normes, mais en plus, on agrandit. Quelques petits exemples que je vais vous donner. Nous sommes en phase de concours d'architectes. Donc aujourd'hui, 4 architectes sont en train de travailler. On ne sait pas encore ce qu'ils produisent.
Ils n'ont pas encore présenté leur projet.
Ça sera présenté début janvier. Puis j'espère qu'on sera là pour en reparler. Il y a eu pendant des mois un travail fait par un cabinet.
ABCD.
ABCD, en effet, qui est venu interroger les usagers, le personnel, les politiques. La bibliothèque elle-même a porté une enquête auprès des usagers. Peut-être en avez-vous fait partie.
J'en ai fait partie.
Voilà, sur ce qu'on attend, ce que l'on souhaite. Et quelques points qui donc ont permis de faire le cahier des charges qui est aujourd'hui en train d'être travaillé par les architectes. C'est un agrandissement, c'est-à-dire créer un nouvel espace très clairement sur l'espace du parking aujourd'hui. On souhaite, vous le savez, puisqu'on refait la place Kennedy pour apaiser tout ce centre-ville, qu'il n'y ait plus un parking aussi important à cet endroit-là. C'est un peu une aberration dans la ville apaisée qu'on souhaite aujourd'hui. Donc le long de cette muraille magnifique qui, de mémoire, date du XIIIe siècle, une extension contemporaine. Il y a aussi un symbole là-dessus, c'est qu'on rajoute à ce bâtiment patrimonial, qui avait déjà eu une extension dans les années 80, une nouvelle strate. Et ça, à Angers, on assume. C'est la galerie de Kengo Kuma, donc, par exemple, sur la cathédrale. C'est-à-dire qu'on assume que l'architecture contemporaine vienne poser son regard sur le passé. Si c'est bien fait, c'est magnifique. Donc cette extension, qui sera aussi une galerie des trésors, valoriser pour les Angevins et pour les touristes le fait que nous ayons des manuscrits médiévaux unique. Hein. Angers est une médiathèque classée, donc on a les dessins du Gaspard de la Nuit, d'Aloysius Bertrand, ils sont ici. On a, pardonnez au 19e ce que je suis, de mentionner les harmonies de Lamartine. On a des lettres de Goethe, et puis Marc-Édouard Gauthier, le directeur par intérim, grand spécialiste des fonds médiévaux, pourrait nous parler de tous les manuscrits médiévaux extraordinaires qui sont conservés. Donc valoriser ces collections. Mais c'est aussi se dire que l'espace famille aujourd'hui dans lequel vous devez aller, il est à l'étage avec les poussettes, c'est pas très facile. Donc travailler un espace, un accueil famille en rez-de-chaussée. C'est travailler aussi une ouverture sur le jardin dont on parlait. Rêvons ensemble de pouvoir accéder à la bibliothèque par le jardin. Rêvons aussi que on ait un jardin privatisé de lecture, c'est-à-dire là aujourd'hui vous avez un superbe arbre qui sera préservé, et donc plus de voitures mais juste un accès, parce qu'il faut bien techniquement avoir un accès, qu'on forme une sorte de cloître qui réponde au cloître de l'autre côté, qu'on ne peut pas exploiter dans le cadre de la bibliothèque, mais de recréer cet espace de lecture. Si vous êtes déjà venu, vous avez peut-être vu déjà des transats qui étaient mis. Et bien là, on va continuer sur cet espace. Pourquoi ? Parce qu'une bibliothèque, c'est un lieu de vie. C'est un lieu où on apprend à lire, à écrire, où on joue aussi, puisque maintenant les bibliothèques à Angers intègrent des ludothèques. Le jeu apprend à vivre en société, apprend des règles du jeu, apprend à lire aussi. Hein, pour savoir jouer, il faut savoir lire les règles, donc en parler. Donc la vertu du jeu est essentielle. Une salle de convivialité aussi. Aujourd'hui, imaginez, vous avez une pauvre machine à café coincée entre les toilettes des dames et les toilettes des messieurs. Niveau convivialité, on peut faire un petit peu mieux. Donc voilà, c'est cette vision globale d'un service public culturel dans ce lieu magnifique, et je pense qu'il n'y a pas beaucoup de choses à faire pour qu'on offre quelque chose de vraiment superbe à nos concitoyens.
C'est important là ce que vous êtes en train d'évoquer, parce que on traverse une crise, on est dans une crise, hein, la pandémie, pour l'appeler comme par son nom, elle nous a montré plusieurs choses. D'une part, elle nous a rappelé que le livre était un bien essentiel. Elle nous a montré que les librairies ont réussi à traverser la crise, que le prix unique du livre a été une idée révolutionnaire, et on est là dans le domaine du livre. Et partant de ce constat, ça crée une responsabilité, parce que la bibliothèque dont vous êtes en train de nous parler, elle fonctionnera encore en 2060.
Tout à fait.
Quelles indications on donne aux personnes qui vont être en charge de réaliser l'objet ?
Vous avez complètement raison, c'est Toussaint plus 40, hein. Là on a Toussaint moins 40 si on regarde en arrière. Bah, déjà il faut prendre des décisions qui ne sont pas, contingentes à des modes actuels. C'est-à-dire faire en sorte que l'on puisse dans 10 ans ou dans 20 ans faire évoluer les choses et que ce soit possible. Et là, bah, c'est la vie de tous les professionnels. Je veux dire, il n'y a pas une seule personne qui décide. Il y a vraiment une équipe très très riche de personnes qui travaillent à la bibliothèque au quotidien pour l'accueil du public, pour le conseil. Parce que rentrer dans une bibliothèque, c'est quelque chose. Mais parler à un bibliothécaire qui vous dit quoi lire, c'est ça la valeur ajoutée. C'est ça la richesse d'une bibliothèque publique. Ce qu'on a dans les librairies aussi, hein, naturellement. Quand vous allez dans telle librairie, vous êtes content de parler avec votre libraire favori. Ce que je voudrais dire, c'est que, comme vous l'avez dit, il y a des endroits où on brûle les livres. On en a brûlé aussi, et je suis convaincu que le livre doit rester. Je suis convaincu que le livre papier va rester, doit rester, que parmi ces autres façons de lire et d'écrire, il y a bien sûr le numérique, et notre bibliothèque sera équipée de tous les outils numériques, connexion aux collections de l'INA, des services en ligne, etc. C'est déjà le cas et ça sera toujours le cas, mais on va pas renoncer aux livres en papier.
Surtout, je vous supplie, n'y renoncez pas, hein, surtout pas.
Pour moi, c'est une évidence. Écoutez, on en reparle dans 60 ans, dans 40 ans, allez, jusqu'en 2060.
Vous pourrez, moi, peut-être
mais
pas.
Mais je pense que le livre continuera. Après, oui. Vous savez, ce qui est très drôle, c'est quand on travaille sur les livres autour de 1900, on se rend compte que tous ces papiers faits de façon industrielle, avec des acides, sont des papiers de très mauvaise qualité. Et que les livres de 1900 tombent en poussière, là où ceux de 1700 restent bien solides.
Et qu'on peut encore revoir la Bible de Gutenberg.
Exactement, tout à fait. Donc voilà, tout ça bouge et en effet, on essaye de faire un projet qui soit en mesure d'accueillir les évolutions qu'aujourd'hui on ne peut pas deviner, naturellement.
Alors c'est un chantier, on le comprend bien, et nécessairement ce chantier va amener à la fermeture de la bibliothèque Toussaint en 2023. On ferme, on rouvre en 2025.
Tout à fait.
Mais qu'est-ce qui se passe pendant ce temps ?
Eh bien, je peux vous donner les grandes étapes, si vous voulez. On va préparer le déménagement à partir de janvier 2022. Préparer le déménagement, c'est quoi ? C'est maintenir l'activité de Toussaint, c'est travailler avec les architectes, etc., etc. D'avril à septembre 2023, on déménage. Donc entre avril et septembre 2023, on déménage, environ 6 mois. Les collections patrimoniales vont aller dans des réserves, voilà. Et la fermeture de Toussaint, c'est prévu entre septembre 2023 et août 2025. Pendant cette fermeture, il est hors de question de ne pas offrir un service. Alors, je le dis tout de suite, bien sûr, le service va être dégradé. Mais nous sommes en train de travailler à des sites pour accueillir peut-être un endroit pour lire la presse, un endroit pour consulter certains livres, un endroit pour en retirer. Et donc on est en train, avec toutes les équipes et la direction de la culture, parce que ce que j'ai pas mentionné, c'est qu'il y a le conservatoire, les musées, les bibliothèques, mais il y a aussi un directeur de la culture qui s'appelle Olivier Martin, qui lui est dans la tour de contrôle un petit peu de ces 400 agents dont je vous parlais. Donc, un service qui sera dégradé, mais on va offrir des alternatives. Et on est en train, je ne peux pas vous dire lesquelles, mais de trouver des lieux dans lesquels le public pourra aller, dans lesquels le personnel sera redéployé. Ça va être à la fois hyper intéressant, parce que certains agents de la Bibliothèque Toussaint vont aller dans les quartiers. Ça fera peut-être naître des vocations aussi. En fait, ça va faire beaucoup, beaucoup bouger les habitudes. Et l'idée, c'est qu'on réaménage entre fin 2025 pour une réouverture, fin 2025, début 2026, mais fin 2025, on avance de façon très ordonnée. C'est-à-dire que dès le mois de mai 2020, malgré la crise, malgré tout ça, nous avons dit on doit regarder loin, on doit regarder vraiment l'horizon, et on doit absolument travailler à la mise en place de ce projet.
Alors on l'a bien compris au début de cet entretien, vous, votre appétence, c'est la musique, mais on va aller plus loin dans votre connaissance. Est-ce que vous êtes aussi un lecteur ?
Oui, je n'ai pas assez le temps pour lire tout ce que je voudrais, mais je crois que là je tombe dans la banalité terrible de ceux qui aiment lire et qui n'ont pas le temps de lire tout ce qu'ils veulent.
Quel est le livre sur votre table de chevet ?
Le livre sur ma table de chevet, aujourd'hui, c'est la Divine Comédie de Dante.
Oula, là c'est...
Alors, c'est pas d'actualité, vous allez me dire, et c'est d'actualité parce que c'est les 700 ans de la mort de Dante, et je me replonge en effet dans la lecture de cette épopée incroyable qui mélange les littératures, les mythologies antiques, la culture chrétienne. Enfin, c'est assez extraordinaire. Et puis, ces premiers vers, vous savez, c'est ce voyage que fait Dante, conduit par Virgile à travers l'enfer, le purgatoire, le paradis. C'est la notion de voyage, et ça commence par ces vers. Nel mezzo del cammin di nostra vita, au milieu du chemin de notre vie, je me retrouvais dans la forêt obscure parce que la voie droite était perdue. Je ne peux pas aller tout droit, je passe dans une forêt de complexité, d'obscurité, et je trouve que par rapport à la période que l'on vit aujourd'hui, enfin, il y a vraiment quelque chose qui est fondamental. J'ai un autre livre sur mon... Vous allez dire, il n'est vraiment pas d'actualité celui-ci aussi, mais j'ai un certain rapport au classique, hein. C'est Les Pensées de Marc Aurèle. Voilà, je pense aussi qu'il y a certains ouvrages fondamentaux qui nous guident, qui peuvent nous guider, parce qu'ils ont passé l'épreuve des siècles. Et puis j'avais récemment un Modiano. Parce que j'aime lire dans les cafés, j'ai plus beaucoup le temps de le faire, et donc il y a cet univers chez Modiano qui me parle beaucoup.
Et puis voilà, c'est une lecture paradoxalement que moi je trouve légère.
Enfin, Modiano ?
Modiano,
oui, tout à fait.
Et quel est votre auteur de prédilection ? Un seul.
Baudelaire.
C'est clair. C'est bientôt Noël. Quel conseil de livre pour faire un cadeau vous recommanderiez aux personnes qui nous écoutent ?
Eh bien, je pourrais recommander Sabre. Je ne sais pas si vous avez lu Sabre, de quelqu'un que l'on connaît bien dans le coin. C'est Emmanuel Ruben.
Qui a été un invité, qui est un adorable personnage.
Et qui est un écrivain voyageur.
Qui est un écrivain magnifique, qui a écrit un très beau livre en remontant le Danube, qui a fait un choix tout récent, celui d'abandonner la direction de la maison Julien Gracq pour se consacrer uniquement à l'écriture, et qui est un auteur que j'adore bien évidemment. Et alors oui, je cautionne ce conseil.
Et vous voyez, c'est terrible parce que vous parlez d'Emmanuel Ruben et de Sabre, j'aime beaucoup les écrivains voyageurs, c'est vous parler de Gracq. Et là je m'en veux parce que j'aurais dû vous dire, ben non, c'est Gracq. Parce que j'ai fait le pèlerinage à Saint-Florent il y a une quinzaine d'années pour déposer mon livre. C'était la petite librairie en bas, et puis il venait les signer. Puis vous savez, récupérer le livre un petit peu plus tard. Donc j'ai toujours mon exemplaire d'un beau Ténébreux dédicacé. Mais le Rivage des Sirtes est un livre qui joue un rôle essentiel dans mon développement de jeune adulte. J'ai découvert cette littérature à 20 ans. Et le regard de Gracq, cette attente, je veux dire, c'est une écriture de l'attente, il ne se passe rien. C'est le balcon en forêt, c'est ce rapport au monde, c'est un géographe. Donc le regard qu'il pose sur le monde, il y a une sorte de Weltanschauung, de vision du monde, dans un style... Je vous confie avoir la chair de poule lorsque je parle de Gracq. voilà, il y en aurait beaucoup d'autres, et j'aime m'émerveiller de beaucoup de ces grands auteurs qui nous accompagnent. Et Gracq, par exemple, on va accueillir à la Bibliothèque Toussaint une très très belle exposition qui s'appellera L'œil géographe, de photos de Gracq lui-même, qui sont belles, qui sont conservées à l'Université d'Angers. Emmanuel Ruben est en train de faire dialoguer justement des extraits de la littérature, de l'œuvre de Gracq avec ses photos. C'est quelque chose qu'on fera en partenariat avec Caen aussi. Donc vraiment, venez voir cette exposition de Julien Gracq à la rentrée.
Eh bien, vous voyez, Nicolas Dufetel, le temps passe très vite. On arrive au terme de cette conversation. Je vous remercie de votre visite et d'y avoir participé. Je vous souhaite de très bonnes fins d'année.
Merci et bonne fête à tous.
Au revoir.
Au revoir.
Nous venons d'écouter The Arms of the Night, cet extrait de We've Been There Before, le tout nouveau projet de l'angevin Guillaume Goubier. Vous êtes bien sur Radio G, que vous pouvez écouter sur le www.radio-g.fr. Mais continuons avec Julien son tour du monde toujours aussi passionnant. Pour le G, il a tourné pendant un moment son regard vers la Grèce. Mais qu'est-ce à dire, il n'y aurait pas que l'Iliade et l'Odyssée en Grèce ?
Ah ah ah, tour du monde.
What is your nationality ?
I'm a drunkard.
And that makes Rick a citizen of the world.
Chers auditeurs d'Entre les Pages, mon très cher Luc, je vous invite aujourd'hui à la lettre G de mon tour du monde. Alors, j'aurais pu vous emmener au Gabon, pays de l'auteur Janis Otsiemi, qui publie chez Gigal des polars dénonçant la corruption des élites de son pays, comme dans African Tabloid. mais je vous avais promis d'embarquer pour la Grèce à bord d'un ferry. Ce que je m'empresse de faire. Direction Athènes et son commissaire, Kostas Charitos. Petit aparté littéraire, le commissaire Charitos sévit dans la même ville, à la même époque, que le commissaire Stavros. Alors, pourquoi je vous parle de ce dernier ? Lui, ses aventures sont publiées, elles aussi, chez Gigal. La romancière est franco-grecque et se nomme Sophia Mavroudis. Elle n'a pas l'envergure de son prédécesseur Petros Markaris. Mais ses enquêtes sont du même terreau, du même tonneau. Ses constats sont quasiment identiques. À la différence du Simenon grec, elle fait la jonction entre la Grèce et la France, en passant par la Chine, tandis que Petros Markaris s'ouvre dans la direction turque de la mer Méditerranée. Il suffit de lire d'une part Stavros sur la route de la soie et d'autre part L'empoisonneuse d'Istanbul pour mieux s'en rendre compte. Revenons maintenant à Petros Markaris, que j'ai surnommé le Simenon grec, comme d'autres ont pu le faire avant moi de Seicho Matsumoto avec l'adjectif japonais. Mais nous attendrons la lettre J pour en parler. Pourquoi Simenon grec ? En fait, c'est pour ce côté enquêteur patient, en marge de la société, parfois débordé et qui cherche à comprendre le crime qu'il n'a pu éviter. Normal pour un commissaire de la criminelle. Quand il intervient, c'est trop tard. Si Petros Markaris est un Simenon grec, alors Kostas Charitos est un Maigret en puissance. Loin de moi l'idée de penser que l'on débusquera un jour des romans durs chez Markaris. Mais qui sait ? Dror Mishani, le Simenon israélien, a bien suivi cette voie. Nous en reparlerons évidemment très vite. La différence notable est que chez Charitos, si Athènes est un personnage à part entière, le travail est amplement pollué par le domestique. Eh oui, le commissaire a une femme, une fille, qui plus est qui s'est mariée, qui plus est qui a eu un enfant, et surtout, enfant à qui elle n'a pas donné le prénom de son grand-père. Et en plus, on pourrait ajouter qu'elle a des velléités d'indépendance, alors même qu'elle parcourt les pages des enquêtes de son père. C'est un malhabile paradoxe, mais qui donne un certain charme au roman. Je vous la ferai bien du genre, si vous voulez découvrir l'univers de l'auteur, commencez par Journal de la nuit, le premier de la série publié en 2000 et disponible au livre de poche. Mais j'ai envie de vous surprendre. Les deux dernières aventures parues en France sont légèrement similaires et révélatrices d'un mal civilisationnel au pays d'une certaine idée de la culture entre universalisme, université et philosophie. Le séminaire des assassins et Mort aux hypocrites font mention de groupes terroristes qui s'en prennent au paraître des élites et à leur tartufferie. En France, on est habitué. Mais ce serait oublier qu'en Grèce, la dictature des colonels est encore profondément ancrée et que le militantisme fait parfois encore sens, même s'il se retrouve bafoué par l'hydre européenne. Revisionner les films de Costa Gavras, non pas de A à Z, mais de Z à Adults in the Room, si vous voulez vous en rendre compte. Eh bien, dans ces deux romans, même s'il y met des grands-mères sympathiques, des étudiants idéalistes et des gâteaux à la crème, Petros Markaris n'est pas tendre pour une société que, paradoxalement, il aime. Enfin, quand je dis qu'il l'aime, il aime plutôt ses traditions. Est-il conservateur ? Je ne le crois pas, même s'il est au service de l'État, et que l'État est par essence conservateur. Lui, il aime sa famille, les senteurs, les petits plats, un animal de compagnie, et maintenant sa descendance. Mais malgré tout, il fait son métier. Pas avec passion, mais scrupuleusement. Et comme Maigret, il est d'une tristesse infinie au moment de boucler un dossier. Un enquêteur névrosé qui s'ignore, et surtout nostalgique. Retenez ce nom, Petros Markaris. C'est aujourd'hui au Seuil en grand format et chez Point en poche. La quinzaine prochaine, on quitte la ville, on quitte l'Europe et on se précipite en Haïti. Une autre idée de la violence. D'ici là, bonne fête.
Merci Julien pour ce petit voyage cultivé. Et c'est maintenant au tour de Anne et Elodie de nous lire l'introduction d'un bien vieil ouvrage, « Les six livres de la République » de Jean Bodin. Deux voix ne seront pas de trop. Réveilleront-elles la conscience des candidats aux prochaines élections ? Je l'espère parce qu'ils en ont bien besoin.
De la République de Jean Bodin à Monseigneur Dufour, seigneur de Pibrac, conseiller du roi en son privé conseil, écrit en 1576. Puisque la conservation des royaumes et empires et de tout peuple dépend, après Dieu, des bons princes et sages gouverneurs, c'est bien raison, Monseigneur, que chacun leur assiste, soit à maintenir leur puissance, soit à exécuter leur sainte loi, soit à ployer leurs sujets par dits et écrits, qui puissent réussir au bien commun de tous en général, et de chacun en particulier. Et si cela est toujours honnête et beau à toute personne, maintenant il nous est nécessaire plus que jamais. Car pendant que le navire de notre République avait en poupe le vent agréable, on ne pensait qu'à jouir d'un repos ferme et assuré, avec toutes les farces, momeries et mascarades que peuvent imaginer les hommes fondus en toutes sortes de plaisirs. Mais depuis que l'orage impétueux a tourmenté le vaisseau de notre République avec telle violence que le patron même et les pilotes sont las et recrues d'un travail continuel, il faut bien que les passagers y prêtent la main, qui au voile, qui au cordage, qui à l'ancre, et ceux à qui la force manquera, qu'ils donnent quelques bons avertissements ou qu'ils présentent leurs vœux et prières à celui qui peut commander au vent et apaiser la tempête, puisque tous ensemble courent un même danger. Ce qu'il ne faut pas attendre des ennemis qui sont en terre ferme, prenant un singulier plaisir au naufrage de notre République, pour courir au bris, et qui déjà se sont enrichis du jet des choses les plus précieuses, qu'on fait incessamment pour sauver ce royaume, lequel autrefois a eu tout l'Empire d'Allemagne, les royaumes de Hongrie, d'Espagne et d'Italie, et tout le pourpris des Gaules jusqu'au Rhin sous l'obéissance de ses lois. Et alors qu'il est réduit au petit pied, ce peu qui reste est exposé en proie par les siens eux-mêmes et au danger d'être froissé et brisé entre les roches périlleuses. Si l'on ne met peine de jeter les ancres sacrées afin d'aborder, après l'orage, au port du salut qui nous est montré au ciel, avec bonne espérance d'y parvenir si on veut y aspirer.
C'est pourquoi, de ma part, ne pouvant rien mieux, j'ai entrepris le discours de la République et en langue populaire, tant pour ce que les sources de la langue latine sont presque taries et qui sécheront du tout si la barbarie causée par les guerres civiles continue, que pour être mieux entendu de tout français naturel. Je dis ceux qui ont désir et vouloir perpétuel de voir l'état de ce royaume en sa première splendeur, florissant encore en armes et en lois, ou s'il est ainsi qu'il n'y eut jamais et il n'y aura jamais république, si excellente en beauté, qui ne vieillisse, comme sujette au torrent de nature fluide qui ravit toute chose, du moins qu'on fasse en sorte que le changement soit doux et naturel, si faire se peut, et non pas violent ni sanglant. C'est l'un des points que j'ai traités en cette œuvre, commençant par la famille et continuant par ordre à la souveraineté, discourant de chacun membre de la République, à savoir du prince souverain et de toutes sortes de républiques, puis du Sénat, des officiers et magistrats, des corps et collèges, États et communautés, de la puissance et devoir d'un chacun.
Merci à Anne et Élodie pour cette lecture difficile à cause de la langue, mais ô combien édifiante quant au contenu. S'il faut toujours se garder des anachronismes en matière de textes historiques, les réflexions de Jean Bodin, théoricien politique du XVIe siècle, né à Angers, restent tout à fait d'actualité, et dans cette période cruciale, revenir aux fondamentaux ne serait-il pas le premier pas vers la sagesse ? Vous cherchez une idée de cadeau de Noël, pourquoi ne pas offrir le dernier numéro du journal La Topette ? Le nouveau numéro du journal, populaire et toujours aussi indiscipliné, est en kiosque depuis le début du mois de décembre. Au cours de l'émission, vous avez entendu le larghetto de la sonate numéro 14 en si mineur de Francesco Mancini, interprété par Héloïse Gaillard et l'ensemble Amaryllis. The Arms in the Night, extrait du nouvel album du groupe We've Been There Before, le nouveau projet de Guillaume Goubier. Vous retrouverez toutes les informations et tous les liens relatifs à cette émission sur la page de Entre les pages sur le site de Radio G à la date de l'émission. Le prochain rendez-vous, ce sera le mercredi 5 janvier à 17h avec un invité exceptionnel, Timothée Demeyer, auteur avec Grégoire Ozoa d'un livre étonnant, Voyage au Liberland, aux éditions Marchiali. Dans quelques instants, ce sera le journal de 18h de RFI. Je vous souhaite une excellente soirée et de bonnes fêtes de fin d'année. Et maintenant...
In 500 meters, go straight, and then go straight.
Générique.